Chapitre 3. Le quadrille commença. « Permettez, Votre Excellence, » dit Akim Pietrovitch, qui, la bouteille à la main, s'apprêtait respectueusement à remplir la coupe du général. « Bon, je le sais, je ne sais vraiment pas. » Mais déjà, Akim Pietrovitch, la figure illuminée par un respect illimité, versait le vin. La coupe de Son Excellence remplie, le petit chef de bureau se recroquevilla et, furtivement, tel un voleur, il s'en versa lui-même, avec cette différence, cependant, qu'il ne remplit pas sa coupe jusqu'au bord, en témoignage ostentatoire, sans doute, du sentiment de son infériorité. Assis maintenant auprès de son supérieur, le pauvre vieux était comme une femme en couche. De quoi lui faut-il donc parler, se demande-t-il, d'être-t-il anxieux? Cependant, à tout prix, il fallait distraire Son Excellence, puisque celle-ci lui avait fait l'honneur de l'admettre à ses côtés. Le champagne servit donc d'issue à cette situation qui paraissait ne pas en comporter. Son Excellence sembla satisfaite, non du champagne bien entendu, car celui-ci était tiède et franchement mauvais, mais simplement du délassement moral qu'apportait cette petite cérémonie. « Le vieux voudrait bien boire, » songeait Ivan Ilyitch, « mais il n'ose pas boire tout seul. Je puis pourtant pas l'en empêcher. Il serait même ridicule que cette bouteille restât ainsi entre nous. » Il goûta donc à la boisson, ce qui évidemment était mieux que de rester sans rien faire. « Je suis venu ici, » débuta-t-il en observant les pauses et les accentuations. « Je suis venu ici par hasard, pour ainsi dire. » Certains, bien entendu, trouveront que ma place n'est point ici et qu'il n'est pas convenable de ma part d'assister à une réunion pareille. Akim Pietrovitch, silencieux, l'écoutait avec une curiosité timide. « Mais j'espère que vous comprendrez pourquoi je suis venu ici. J'espère que vous n'allez pas croire que le vin seul m'attire. » Akim Pietrovitch tenta lui aussi de rire à l'exemple de Son Excellence. Ne pouvant y arriver, il s'arrêta en chemin, sans trouver la moindre phrase à dire. « Je suis venu, pour ainsi dire, afin d'encourager, afin de montrer, pour ainsi dire, le but, pour ainsi dire, moral. » L'attitude stupide d'Akim Pietrovitch mettait le général en fureur. Il se sentait prêt à lui en vouloir quand il s'aperçut que son malheureux interlocuteur baissait les yeux comme conscient de sa faute. Quelque peu troublé, le général avait une gorgée de champagne. Il l'avala et Akim Pietrovitch, pour sauver la situation, s'empara de la bouteille et remplit encore une fois la coupe de son supérieur. Oh, tu possèdes vraiment bien peu de ressources, songea Ivan Ilyitch, tout en mesurant son pauvre diable de subordonné d'un regard sévère, mais non dépourvu de compassion. Akim Pietrovitch, qui sentait monter la colère déguisée du général, se décida définitivement à observer le silence. Ils restèrent ainsi, l'un en face de l'autre, pendant 2 minutes. Laps de temps qui parut interminable à Akim Pietrovitch. Disons maintenant quelques mots concernant ce dernier. C'était un homme du genre ancien, calme et craintif comme une poule, élevé dans le respect des supérieurs, et qui ne manquait ni de bonté ni même de noblesse. Il était de ces Russes de Pétersbourg qui, de père en fils, viennent au monde dans la capitale, y poussent et ne la quittent jamais. Ce type spécial de Russe n'a aucune idée de la Russie et ne s'en inquiète point, car tout son intérêt vital réside à Pétersbourg et spécialement à l'endroit où se trouve son bureau. Tous les soucis de ces gens sont limités à une partie de cartes à mise réduite, à l'épicerie du coin qui leur fournit les denrées et aux appointements qui leur donnent la possibilité de vivre. Des coutumes russes, ils ignorent tout. Et quant aux chansons populaires, ils n'en connaissent d'habitude qu'une seule, le boulot, et encore, parce que celle-ci est jouée perpétuellement sur tous les orgues de barbarie. Bref, c'est un type zoologique particulier, calme et soumis, qui se constitua au cours des 35 dernières années. Cependant, Akim Petrovitch n'était pas un imbécile. Si le général lui avait demandé quelque chose de son ressort, le chef du bureau aurait répondu et soutenu la conversation. Mais il considérait comme une véritable indécence pour un subordonné de répondre à des questions qui ne le regardaient en rien. Le vieux brûlait de curiosité, cependant, sur le véritable motif de la visite de son Excellence. S'enfonçant de plus en plus dans un abîme de mélancolie et de distraction, Ivan Ilitch goûtait de plus en plus souvent à sa coupe qui, par les soins dévoués d'Akim Pietrovitch, demeurait sans cesse remplie jusqu'au bord. Ivan Ilitch, las du silence pesant, chercha donc à s'intéresser aux danses dont le spectacle accapara bientôt toute son attention. Elles étaient vraiment gaies. Les invités s'adonnaient à la joie dans toute la simplicité de leur cœur. Bien que les bons danseurs ne fussent pas nombreux, les maladroits suppléaient à ce manque d'élégance en faisant tant de bruit avec leurs talons qu'on eût pu les prendre pour des maîtres de ballet. L'officier se distinguait particulièrement. On voyait qu'il aimait les figures de solo, car, resté seul avec sa danseuse au milieu de la salle, il prenait des poses extraordinaires. Tantôt, droit comme un poteau indicateur, il se penchait tellement sur le côté que ce mouvement laissait croire à une chute prochaine. Il se redressait cependant aussitôt, au pas suivant, pour se pencher à nouveau de l'autre côté, formant ainsi un angle de 45 degrés avec le parquet. L'expression de sa figure était des plus sérieuses, et il dansait avec une véritable conviction propre à étonner tout le monde. Un autre danseur, dont la cargaison de boissons était sans doute complète dès le début de la soirée, s'était endormi auprès de sa dame, de sorte que cette dernière était obligée de danser seule. Un jeune fonctionnaire, cavalier d'une danseuse à écharpe bleue, répétait sans cesse le même tour qu'il considérait évidemment comme très spirituel. Restant en arrière de sa dame, il saisissait le voile de sa partenaire et y déposait une dizaine de baisers. Sa cavalière, cependant, semblait ne pas attacher d'importance à cet hommage répété et majestueusement accomplissait les rites de la danse. L'étudiant n'avait pas manqué la promesse et exécuta le solo, les jambes en l'air, ce qui lui attira l'attention de toute la société. Bref, le sans-façon régnait. Ivan Ilitch, qui se trouvait sous l'action généreuse du vin, commençait déjà à sourire quand il sentit brusquement un doute amer s'inscrire dans son âme. Cette aisance qu'il avait appelée de tous ses voeux au moment où les invités reculaient devant lui, cette aisance tournait au sans-gêne. Et quel sans-gêne, mon Dieu! Une dame, par exemple, vêtue d'une robe de velours bleu qui certainement lui venait de quatrième main, avait épinglé sa robe de façon qu'elle ressemblât à un pantalon. C'était cette même Cléopâtre Siemienovna, en compagnie de qui on pouvait tout risquer, ainsi que l'avait déclaré l'étudiant. Mais comment tout cela est-il arrivé? Songeait le général un peu vexé. Il reculait, maintenant les voilà émancipés. Ce changement d'attitude, cette aisance affectueuse vers laquelle tout son être s'était tendu passionnément, lui semblait maintenant tellement étrange et menaçant que le pauvre dignitaire y devinait presque un présage d'événements beaucoup plus graves. On eût dit que tous ces gens avaient oublié jusqu'à son existence même. Et cependant, malgré l'incertitude mortelle qui peu à peu envahissait son âme, Ivan Ilitch riait et applaudissait. Akim Pietrovitch souriait respectueusement à l'unisson de son chef, sans se douter que son Excellence nourrissait dans son sein un nouveau ver rongeur. « Très bien, jeune homme, vous dansez très bien !» cria le général, s'adressant à l'étudiant qui passait à ses côtés. Le danseur se tourna brusquement vers son Excellence et, faisant une grimace impossible, rapprocha sa figure de celle d'Ivan Ilitch et lança à son nez un joyeux cocorico. C'en était trop. À cette plaisanterie un peu exagérée, Ivan Ilitch se leva. Un éclat de rire général l'accueillit. Le chant du coq avait été vraiment bien imité. Quant à la grimace, ça dépassait tout. Plongé dans la stupéfaction, le général se tenait encore debout quand Pseldoninov, accompagné de sa mère, arriva pour lui annoncer que le souper était servi. « Petit père, votre excellence, disait la vieille en s'inclinant, faites-nous l'insigne honneur de partager notre modeste repas. Oh non, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas, bégaya Ivan Ilitch. Je ne suis pas venu pour cela. Je m'apprêtais à partir. En effet, le général venait de se jurer qu'il ne resterait pas une minute de plus. Il avait même pris son bonnet à la main. Mais le destin était là et Ivan Ilitch resta. Une minute plus tard, précédé de Pseldoninov et flanqué de la bonne vieille mère, il conduisait le cortège qui se rendait aux agapes. On installa à la place d'honneur et une nouvelle bouteille de champagne fut posée devant son couvert. D'un geste qu'il jugea bientôt aussitôt lui-même très étrange, le général s'était emparé d'une bouteille de vodka pour s'en verser un verre. Comme il n'en avait jusqu'ici jamais goûté, Ivan Ilitch, son verre bu, eut une sensation aussi rapide que singulière. Il lui sembla qu'il roulait du haut d'une montagne. Se sentant descendre, il voulait se raccrocher à quelque chose, mais il était obligé de s'avouer l'impossibilité pour lui de le faire. La situation du général devenait de plus en plus excentrique. En vérité, Dieu sait ce qu'il était devenu en l'espace d'une heure. En entrant, il tendait ses bras, non seulement à ses subordonnés, mais pour ainsi dire à l'humanité tout entière. Et voilà qu'une heure après, toutes les souffrances de son cœur l'obligeaient à détester Pseldoninov, à le maudire, lui, son épouse et son mariage. Cette haine, d'ailleurs, semblait partagée. Le général le lisait dans les yeux de Pseldoninov. Le regard navré du malheureux gratte-papier ne disait-il pas « Mais que le diable t'emporte, général de malheur !» Malgré cette hostilité pourtant si visible, Ivan Ilitch serait laissé couper la main plutôt que d'avouer non seulement tout, mais encore en lui-même, que sa façon d'agir était effectivement stupide. L'instant des mea culpa n'avait pas encore sonné. Mais le cœur lui faisait mal. Serré, il essayait de s'élancer à l'air libre, aspirant au repos. Ivan Ilitch, qui au fond était un brave homme, savait très bien qu'il aurait dû partir il y a longtemps déjà, et non seulement partir, mais se sauver à toutes jambes. Car il sentait que la réalité différait de ce que lui avaient fait entrevoir les rêves caressés sur le trottoir. Mais pourquoi donc suis-je venu ici? C'est pourtant pas pour manger et boire. Se morigérait-il tout en gloutant des sakouski, représentés en l'occurrence par un filet de hareng. À la longue, le dignitaire aboutissait même à la négation complète. L'ironie s'insinuait doucement dans son âme, et son prétendu acte d'héroïsme lui apparaissait maintenant tellement ridicule qu'il finit par ne plus savoir ce qu'il était venu faire en cette maison. Il fallait sortir, mais comment? Qu'allait-on dire de tout cela? De mauvaises langues ne prétendraient-elles pas qu'il faisait des excursions dans des endroits peu recommandables? Que dira-t-on demain? Car tout se sait, susurrait le doute. Que diront Stéphane Nikiforovitch, Semen Ivanovitch, les bureaux, les salons, les chambres, les choubines? Bon, je ne peux pas cependant partir avant d'avoir fait comprendre à tout le monde pourquoi je suis venu, songeait-il pour se justifier devant le tribunal de sa conscience. Je ne peux pas m'en aller avant de leur avoir dévoilé le but moral de ma visite. Et le moment pathétique qui n'arrivait point. Il ne me reste même pas, continuait le malheureux. Pourquoi rit-il? Oh, leur sang, elle est si grand qu'on le lui dirait privé de cœur. Il y a longtemps que je suspecte la génération actuelle de ne pas avoir de cœur. Pourtant, il ne faut pas rester ici, quoi qu'il arrive. Mais qui sait? Maintenant que les voilà réunis autour de la table, je pourrais peut-être leur parler de questions vitales, de réformes, de la grandeur future de la Russie. Serait-il donc impossible de leur insuffler de l'enthousiasme? Tout n'est peut-être pas perdu encore. Et qui sait si dans la réalité, les choses ne doivent pas se passer ainsi? Oui, mais par où commencer? Comment les attirer, les capter? Oh, que faut-il que j'invente? Oh, je m'y perds, mon Dieu, je m'y perds. Que me veulent-ils? Que désirent-ils? Je vois leur rire dissimulé. Se moqueraient-ils de moi, mon Dieu? Mais qu'est-ce que je veux donc? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ne pas partir? Le général songeait ainsi, tandis qu'une honte profonde, écrasante, envahissait peu à peu son cœur. Cependant, les événements impitoyables suivaient leur cours. Un quart d'heure ne s'était pas encore écoulé depuis que la société s'était mise à table, quand une pensée terrifiante s'imposa soudain au général. Le malheureux se rendait parfaitement compte qu'il était effroyablement ivre. Ce n'était pas la griserie de tout à l'heure, légère et riante, mais une ivresse irrémédiable et définitive. La cause en était ce maudit verre de vodka qu'il venait d'absorber après le champagne et qui tout de suite avait fait son effet. Une faiblesse étrange l'anéantissait, il le constatait, et une sueur froide perlait à son front. Il est vrai que son courage augmentait à mesure, mais sa conscience le harcelait toujours, ne cessant de crier. Mais c'est mal, c'est très mal, et même ce n'est point du tout comme il faut. Tantôt, c'étaient ses pensées vacillantes qui ne pouvaient se fixer sur un point, et tantôt, il sentait que son être se dédoublait positivement. D'un côté, le courage, le désir de vaincre, la volonté de détruire les obstacles, l'assurance désespérée que le but pouvait encore être atteint, de l'autre, une pénible douleur dans l'âme et des arrêts subits du cœur. Et par-dessus, la question terrible qui le torturait sans répit. Mais comment tout cela allait-il finir? Qu'est-ce qu'il arriverait demain? Demain, demain, toujours ce demain. Un peu avant, déjà, le général avait cru sentir la présence d'adversaires parmi les invités. Il avait voulu alors écarter ce soupçon. C'est sans doute que j'étais un peu ivre en arrivant, s'était-il dit. Mais quelle fut sa terreur quand, d'après les indiscutables précisions que venaient de lui fournir ses observations, il acquit la certitude d'être entouré d'implacables ennemis. Mais pourquoi tout cela? Se demandait-il plein de désespoir. Une trentaine de personnes siégeaient autour de la table. Plusieurs, elles aussi, définitivement grises. Quant aux autres invités, ils se distinguaient par une indépendance d'allure qui avait tout à fait mauvais genre. Ils criaient, parlaient tous ensemble, portaient des toasts, bombardaient les dames avec des boulettes de pain. Dès le début du festin, un personnage plus que louche, vêtu d'une redingote graisseuse, était tombé sous la table pour y demeurer définitivement. Un autre manifestait à tout instant des velléités de grimper parmi les plats afin de prononcer un speech effort que l'officier contrariait sans cesse en le tirant par les pans de son habit. Bien que le cuisinier qui avait préparé le souper sorti d'une maison de grand seigneur, le menu était très éclectique. Il comportait de la galantine, une langue de bœuf aux pommes de terre, des côtelettes aux petits pois, et puis la pièce de choix, l'oie, destinée à couronner l'œuvre. Le blanc-manger ne devait arriver qu'au dessert. Comme boisson, il y avait de la bière, de la vodka et du xérès. Une bouteille de champagne, placée devant le général, obligeait celui-ci à s'en verser, sans oublier Akim Pietrovitch, qu'il avait d'abord servi si largement, mais qui maintenant n'osait plus en prendre l'initiative. Pour les toasts, les invités de second ordre disposaient de vin du Caucase. La table elle-même était composée d'une multitude de petites tables, de tout calibre à côté les unes aux autres. Une table verte complétait le nombre. Tout cela était recouvert de nappes disparates aux couleurs différentes. La mère de Pseldonimov n'avait pas voulu s'asseoir sous prétexte de s'occuper du service. Mais en revanche, une malencontreuse figure féminine que le général n'avait pas encore remarquée avait fait son apparition. Vêtue d'une robe d'un rouge violet, cette femme avait la joue bandée d'un mouchoir d'une propreté douteuse. C'était la maman de la mariée qui, vaincue la haine qu'elle éprouvait à l'égard de Madame Pseldonimov mère, s'était enfin décidée à quitter sa cachette et à venir au salon à l'occasion du souper. Cette dame, qui regardait le général d'un air mi-méchant, mi-narquois, semblait craindre qu'on ne voulût la présenter au convive de hasard, lequel, de son côté, trouvait à ce personnage un air suspect. Madame Mamimerov n'était d'ailleurs pas seule à éveiller la suspicion du dignitaire. D'autres individus, aussi peu sympathiques, inspirait à Ivan Ilitch des craintes bien marquées. Il n'avait peut-être pas tort, car tous ces gens semblaient tramer un complot contre son excellence. Oh, le général avait bien fini par s'en rendre compte durant le souper. Il y avait notamment un monsieur, pourvu d'une petite barbiche, l'air d'un peintre bohème, qui pendant le repas s'était tourné plusieurs fois vers son voisin, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Un autre, un étudiant probablement, paraissait non moins suspect, bien que complètement gris. Quant à l'étudiant qui imitait si bien les cris d'animaux, il n'inspirait en réalité qu'une confiance relative, de même que l'officier en lequel, hélas, Ivan Ilitch avait un moment placé ses derniers espoirs. Cependant, la haine la plus marquée se lisait sur la figure du collaborateur du Brandon. Sa façon de s'affaisser sur sa chaise, ses regards pleins d'orgueil et de provocation, la désinvolture qu'il affectait, terrorisaient positivement le général. Bien que les autres invités n'eussent pas l'air d'attacher une bien grande importance à ce personnage qui, entre parenthèses, n'avait jamais placé que 4 verres dans la revue susdite, le général n'était pas du tout rassuré à son égard. Quand une boulette de pain qui visiblement avait été destinée à Ivan Ilitch tomba à proximité de son Excellence, celle-ci mit sa main au feu que cette familiarité déplacée venait du dangereux journaliste. On comprendra donc aisément que tout ce que nous venons de dire concernant la société put influencer d'une façon bien déplorable l'humeur du général. Au surplus, une nouvelle observation qu'il venait de faire l'avait particulièrement affecté. Ivan Ilitch s'aperçut soudain que sa langue devenait de plus en plus pâteuse et même qu'il éprouvait certaines difficultés à articuler les mots, de sorte que, tout en désirant dire beaucoup de choses, le général était obligé de se taire. De plus, à certains moments, s'oubliant soudain, il se mettait à rire sans savoir pourquoi. Cette dernière disposition d'esprit disparut cependant après un nouveau verre de champagne qu'il avait bu inconsciemment et qui eut pour conséquence directe une irrésistible envie de pleurer. En proie à une émotion des plus intenses, le dignitaire revint aussitôt à ce grand amour dans lequel il englobait l'univers entier, y compris Pseldoninov. Ce sentiment démesuré s'étendait bien plus loin encore, et disons-le, n'acceptait même pas le collaborateur du Brandon. Prêt à embrasser tout le monde, Ivan Ilitch désirait ardemment oublier les offenses et faire la paix. Non content de cela, il brûlait du désir d'ouvrir son cœur aux invités de Pseldonimov pour montrer à tous ces gens la grandeur de sa bonté, la puissance de ses talents et quel service lui, l'éminent homme d'État, pouvait rendre à la patrie. Le général, en vain de dépenchement, n'aurait pas voulu omettre de parler de ses capacités à amuser et à faire rire les dames, ni surtout de son amour pour le progrès. Il se disposait, par la même occasion, à dévoiler son désir de condescendance envers ses inférieurs, ceux-là même qui se trouvaient placés au plus bas de l'échelle sociale. Et pour terminer son discours, il se proposait de dire les motifs qu'il avait amenés chez Pseldonimov, afin d'y voir du champagne, en honorant de sa présence la noce de ce pauvre subordonné à 10 roubles par mois. La vérité, la sainte vérité seule. Bon, c'est par la sincérité que j'arriverai à les convaincre. Ils me croiront, j'en suis persuadé. Ils ont beau me regarder avec une certaine inimitié. Oh, sitôt que je leur aurai dit tout ce que je ressens, ils rempliront leur verre pour voir ma santé. Suivant la vieille coutume de l'armée, l'officier ensuite brisera son verre contre son éperon. Il se peut que tous, ils se mettent à crier « Hurrah, hurrah !» Oh, je ne serais pas non plus mécontent s'ils leur prenaient l'envie de me porter en triomphe. Je poserai un baiser paternel sur le front de la jeune mariée, qui entre nous n'est pas sans agrément. Alain Pietrovitch aussi me paraît être un homme très bon et bien sympathique. Je suis persuadé que dans l'avenir, Pseldoninov lui-même deviendra un homme comme il faut. Bon, pour le moment, oui, il manque un peu des manières d'un homme du monde. Il se peut que toutes ces invités de la jeune génération ne possèdent pas cette délicatesse de cœur que je voudrais leur reconnaître, mais ils me comprendront. Je leur parlerai du rôle de la Russie parmi les puissances européennes, de la question paysanne aussi, bien entendu. Ils m'écouteront, ils m'aimeront, et je sortirai de cette soirée avec gloire. Tous ces rêves étaient très agréables, mais ce qui le fut moins, c'est la découverte inattendue que fit Ivan Ilitch. Il n'avait plus le contrôle de sa salive qui maintenant coulait de sa bouche avec incontinence. Sans savoir ni pourquoi ni comment, le général avait pris l'habitude, comme on dit vulgairement, de lancer les postillons. Il s'en était rendu compte juste au moment où il lui arriva d'humecter la joue d'Akim Pietrovitch. Le pauvre diable, que le respect empêchait de s'essuyer, restait là, attendant sans doute une occasion propice pour le faire. Ce que voyant, Ivan Ilitch prit une serviette et, déployant des soins infinis, frotta la joue, mouillée de son subordonné, et cet acte lui aussitôt lui parut stupide et il s'étonna de l'avoir accompli. Akim Pietrovitch, qui lui aussi avait bu, demeurait comme échaudé. Ivan Ilitch se rendit compte que, tout en écoutant depuis un quart d'heure les élucubrations de son chef, le malheureux semblait non seulement confus, mais encore dévoré par la crainte indicible de quelque danger immédiat. À cette constatation, le général se tourna vers Pselzonimov, qui, assis dans son voisinage immédiat, étirait le cou et, la tête penchée sur le côté, écoutait avec un air renfrogné, tout en paraissant surveiller quelque chose. Mais qui, mais quoi ? Le général, qui n'avait plus rien remarqué d'insolite dans l'attitude des convives, s'aperçut tout à coup que les regards concentraient sur lui et que certains des invités le contemplaient en riant sous cape. Mais le plus étonnant de la chose, ce fut qu'Ivan Ilitch, au lieu de paraître gêné, avala une nouvelle gorgée de champagne et aussitôt d'une voix forte prit la parole en ces termes.
Je viens de dire à Akim Pietrovitch que la Russie, oui, parfaitement la Russie, bref, vous comprenez ce que je veux dire, la Russie traverse, j'en ai la profonde conviction, une crise d'humanitarisme.
Humanitarisme ! Cria quelqu'un à l'autre bout de la table. Ivan Ilitch s'arrêta. Pselzonimov, s'étant levé, se mit à scruter l'assemblée d'un œil sévère pour découvrir l'auteur du trouble. Akim Pietrovitch hocha la tête avec pitié, comme pour confondre les perturbateurs. Le général, qui n'avait pas été sans remarquer ces exclamations saugrenues, garda cependant quelques instants un silence et une pause de martyr.
L'humanitarisme, continua-t-il bientôt, avec une sorte d'entêtement. Tout à l'heure, précisément, je l'avais dit à Stefan Nikiforovitch, oui, que la Renaissance, pour ainsi dire.
Votre Excellence, cria la voix au bout de la table.
Que ne direz-vous ?
Demanda Ivan Ilitch en cherchant à reconnaître la personne qui l'interpellait.
Ah, c'est rien, rien du tout. Votre Excellence, je me suis emporté. Continuez, continuez, s'il vous plaît, répéta la voix.
Ivan Ilitch, qui sentait une commotion nouvelle le traverser tout entier, continua.
La Renaissance, pour ainsi dire, de toutes ces choses.
Votre Excellence, cria encore une fois la voix,
mais que désirez-vous ?
Bonjour.
Oh, cette fois-ci, Ivan Ilitch n'en put supporter davantage. Il interrompit son discours pour fixer le fauteur de désordre. C'était un tout jeune homme assurément ivre. Depuis quelque temps déjà, il ne faisait que crier, cassant des verres et des assiettes, arguant que c'était une coutume indispensable en toute noce qui se respecte. Au moment où Ivan Ilitch se tournait de son côté, l'officier s'occupait à lui faire de sévères remontrances.
Mais qu'est-ce que tu as gueulé ? Veux-tu qu'on sorte ?
C'était pas pour vous, votre Excellence, pas pour vous !
Criait le jeune perturbateur affalé sur sa chaise.
Continuez, SVP ! Je vous écoute et je suis très content de vous entendre. Continuez, compliments, compliments. Un gamin ivre, chuchota Pseldoninov.
Oh, je vois bien qu'il est ivre, mais...
L'officier cherchait à expliquer.
Oh, c'est arrivé un peu par ma faute, votre excellence, car je venais de lui raconter une drôle d'anecdote. Il s'agit là d'un lieutenant de notre régiment qui, dans ses entretiens avec ses supérieurs, usait de procédés que ce gamin a sans doute voulu imiter. À chaque parole que lui adressait un chef, le malheureux répondait « Compliment, compliment !» C'est à cause de cela même qu'il y a 10 ans, mon homme fut exclu du service. Quel était ce lieutenant ? Oh, un lieutenant de mon régiment, votre excellence. Son mot « compliment » était une marotte. On avait commencé par lui faire des remontrances, puis on le mit aux arrêts. Le chef usait envers lui de procédés paternels. Il lui expliquait l'inconvenance de ses façons. Ce à quoi le malheureux répondait par « compliment, compliment ». C'est même un drôle de cas, et bien triste. Car c'était un bel officier qui ne mesurait pas moins de 2 mètres. On avait voulu le faire passer au conseil de guerre, mais on finit par découvrir que mon homme était parfaitement fou. « Gaminerie que tout cela, » dit son excellence. « De mon côté, ouais, je suis prêt à pardonner. »
« Même que la médecine s'en est occupée, votre excellence, » continue l'officier.
« On l'a donc disséqué. »
« Non, permettez, votre excellence, mais ce lieutenant, il était tout ce qu'il y a de plus vivant. »
Un rire général secoua tous les convives et même ceux qui jusqu'ici n'avaient dit mot. Ivan Ilitch devint enragé. « Messieurs, messieurs, cria-t-il d'une voix claironnante, où ne restait plus trace de bredouillement. Messieurs, je suis encore en état de savoir qu'on ne dissèque pas un être vivant. Je supposais seulement que l'officier n'était plus de ce monde. C'est-à-dire qu'il était mort, enfin, je veux dire que vous ne m'aimez pas. Et cependant, je vous aime tous, moi. Oui, j'aime Porphyre. Bien que je m'humilie en vous parlant ainsi. » À ce moment, un énorme jet de salive fusa de la bouche d'Ivan Ilitch pour tomber à l'endroit le plus découvert de la nappe. Pseldoninov se précipita dessus avec sa serviette. Mais ce dernier malheur abattit complètement l'énergie du général. « Messieurs, c'en est trop » cria-t-il au comble du désespoir. « Un homme ivre, » reprit Pseldoninov. « Porphyre, je vois que vous tous, je l'espère, j'espère que vous allez me dire en quoi je me suis abaissé devant vous. » Et les sanglots à peine contenus brisaient la voix d'Ivan Ilitch. Des voix compatissantes et respectueuses cherchèrent à le consoler. « Votre Excellence, mais voyons, Votre Excellence !»« Je m'adresse à toi, Porphyre. Dis-leur, je suis venu. Si je suis venu à cette noce, c'est que j'avais un but. Je voulais relever moralement. Je voulais qu'on sentît. Oh, que suis-je devenu à vos yeux ?»
Un silence de mort. Un pareil silence devant une question si catégorique, c'était à n'y pas croire. « Mais que faut-il donc dire dans un moment pareil ?» se demandait-il. Mais les invités ne faisaient que se regarder entre eux. Akim Pietrovitch restait mi-mort, mi-vif, et Pseldoninov, muet de terreur, se répétait mentalement la question qui depuis quelque temps déjà hantait son cerveau. « Qu'est-ce que je vais prendre demain ?» C'est alors que le collaborateur du Brandon, qui depuis longtemps était demeuré silencieux et morne, se dressa au bout de la table. Le regard en feu, vraie statue de la vengeance, il se tourna vers Ivan Ilitch, et comme s'il avait été chargé de répondre au nom de toute l'assemblée,
« Oui, cria-t-il d'une voix tonnante, oui, vous vous êtes abaissé, et vous voilà démasqué, rétrograde que vous êtes, rétrograde !»« Rétrograde !» répéta-t-il.
« Jeune homme, songez à qui vous parlez !» bredouilla Ivan Ilitch au comble de la fureur.
« Mais à vous !» répondit l'autre. « Mais d'abord, je ne suis pas un jeune homme, monsieur. Je ne vous crains pas, et je suis prêt à vous dire votre fête, monsieur. Vous êtes venu ici jouer la comédie et faire de l'esbrouf. Vous cherchez une popularité de bas aloi. »
Pseldoninov, Pseldoninov, qu'est-ce donc que tout cela ? Cria Ivan Ilitch.
L'interpellé, en proie à une terreur sans nom, demeurait pétrifié, ne sachant que faire. Un silence de mort régnait parmi les invités. Eux aussi semblaient atterrés. Seul l'artiste et l'étudiant applaudissaient et criaient « Bravo, bravo !» Fort de cet appui, si mince qu'il fût, le carabateur du Brando ne cessait de tonner.
« Oui, étant venu faire étalage de votre humanitarisme, vous n'avez su que détruire notre pauvre joie. Vous vous êtes gorgé de champagne, sans songer que ce vin vous coûte bien trop cher pour un fonctionnaire à 10 roubles par mois. J'ajouterai même que dans mon fort intérieur, je vous soupçonne d'être un de ces chefs friands de chair fraîche. » Un de ces satrapes qui recherchent les jeunes femmes de leurs subordonnés.
Oui, oui, parfaitement, monsieur.
Pseldonimov, Pseldonimov, râla Ivan Ilitch.
Désespéré, il tendait les bras vers le malheureux bureaucrate. Chaque parole du journaliste était un coup de poignard dans son cœur.
Tout de suite, votre excellence, n'ayez crainte. Trancha Pseldoninov d'une voix devenue subitement énergique.
Ayant dit, le pauvre diable se précipita sur le trouble fait et le saisissant au collet lui fit quitter la table brusquement. On n'aurait jamais pu supposer tant de force physique en un être aussi débile. Ce prodige s'expliquait facilement, car si le journalisme était complètement ivre, Pseldoninov, lui, était bien à jeun. L'incident se termina par quelques coups de poing dans le dos du rédacteur, qui déjà disparaissait derrière la porte.
Vous êtes tous des lâches, hurlait-il en guise d'adieu. Je ne manquerai pas de vous ridiculiser dans le brandon.
L'assistance entière se dressa comme un seul homme.
Votre Excellence, Votre Excellence! Criait le Pseldoninov, sa mère et quelques-uns des invités.
Tous se tournaient et entouraient maintenant le général.
Calmez-vous, votre excellence.
Non, non, sanglotait M. Pralinski. Je suis anéanti.
Je suis venu ici. J'avais voulu, pour ainsi dire, vous bénir. Et pour cela.
Son regard, suivant la débandade de ses rêves, le général s'écroula sur sa chaise. Il étendit ses deux mains sur la table, laissa tomber sa tête et sa figure plongea dans l'assiette de blanc manger. Nous considérons comme inutile de décrire l'effroi, la stupéfaction, qui, à partir de ce moment, saisirent peu à peu les invités. Songeant au malheur qui venait de l'accabler, celui qui avait rêvé de transformer la société russe se redressa encore une fois. C'était évidemment pour partir, quitter les lieux où son idéal avait été si cruellement bafoué. Mais vacillant soudain sur la base, le général trébucha contre le pied de la chaise et de tout son long s'abattit sur le plancher de la maison Pseldoninov, anciennement Mammiferov. Le conseiller d'État ronflait. Ainsi en arrive-t-il généralement aux gens qui n'ont pas l'habitude de boire. Ils gardent leur conscience jusqu'au dernier moment et soudain tombent comme fauchés. Ivan Ilitch restait couché sans connaissance.
Devant lui, à moitié mort d'anxiété, se tenait Pseldonimov, les mains dans ses cheveux fadas. Un à un, les invités quittaient la pièce, chacun commentant l'événement à sa façon. Il était 3 heures du matin. Les affaires de Pseldonimov étaient cependant déjà dans un état suffisamment mauvais, sans qu'il eût besoin de voir encore les choses tourner ainsi au pire. La vie ancienne du pauvre diable ne pouvait même supporter aucune comparaison avec son état pourtant peu brillant de ce jour. Pendant qu'Ivan Ilitch repose sur le plancher et que Pseldonimov, pris de désespoir, s'arrache les cheveux, interrompons un instant notre récit pour donner un bref aperçu de la personnalité si malencontreuse du triste marié. Un mois à peine le séparait des jours sombres pendant lesquels le malheureux s'était cru définitivement perdu. Pseldonimov venait d'une province où son père, qui avait fait du service dans un bureau, était mort au moment où on allait le mettre en accusation. Après avoir traîné la misère pendant un an à Pétersbourg, le jeune homme, enfin, trouva cette place à 10 roubles par mois. Il se sentit régénéré. Il y avait de cela 5 mois à peine. Cette joie, cependant, n'était pas faite pour durer, et Pietrovitch se retrouva bientôt dans le marasme. Il n'y avait au monde que 2 Pseldonimov, lui et sa mère, qui venaient de quitter sa province à la suite de la mort de son mari, décédé en prison. Elle avait rejoint son fils dans la capitale, et tous deux, à partir de ce jour, luttèrent âprement pour ne pas mourir de froid et pour se procurer trop rarement des nourritures plus ou moins suspectes. C'est seulement quand le fils eut obtenu sa place qu'ils louèrent une chambre meublée où la vieille allait désormais s'occuper de blanchir le linge de quelques clients d'occasion. Cependant que Porphyre tentait des économies impossibles afin de s'acheter un manteau d'uniforme et des chaussures. Combien de misères le malheureux n'avait-il pas supporté dans son bureau, où ses chefs l'abordaient à chaque instant pour lui demander depuis quand il n'avait pas pris de bain. Et les on-dit circulaient. On prétendait que sous le col de sa tunique, des punaises avaient fait leur nid. Mais Pseldonimov avait du caractère. D'aspect taciturne et calme, il ne possédait qu'une instruction très élémentaire et jamais, presque, on ne l'avait entendu parler. Songeait-il à quelque chose? Bâtissait-il des plans et des systèmes? Rêvait-il à quelque idéal intangible? Nul n'aurait pu le dire. Nous savons uniquement que son désir instinctif et inconscient de parvenir et de sortir définitivement de l'ornière était comparable à l'entêtement de la fourmi qui, au fur et à mesure qu'on détruit son nid, cherche de nouveau à le reconstruire. Bref, c'était un être ordonné, méticuleux et casanier. Son front portait la marque de son avenir. On y lisait la ténacité, l'obstination, toutes qualités propres à montrer qu'il arriverait à faire son chemin, qu'il construirait pierre à pierre sa maison. Peut-être même parviendrait-il à mettre quelque argent de côté. Le seul être sur la terre qui l'entoura de son affection était sa mère. Celle-ci aimait son fils par-dessus tout. Femme d'un caractère dur, travailleuse et infatigable, elle était pour lui bonne et douce. Tous deux, ils eussent vécu ainsi 5 à 6 ans dans leur chambre meublée, jusqu'au changement de leur situation, s'ils n'avaient fait la connaissance d'un nommé Mammiferov, conseiller titulaire en retraite et ancien trésorier. Cet homme, qui avait jadis vécu et servi en province, où il avait contracté quelques dettes morales envers le père de Pseldonimov, venait de prendre sa retraite pour s'installer avec sa famille à Pétersbourg.
Il avait de l'argent, point de grosses sommes, bien entendu, mais sa situation semblait aisée. Nul au monde, pas même sa femme ni ses filles, ne savait à combien se montaient les économies du vieux fonctionnaire. Il était buveur, entêté et d'un caractère tyrannique, sans même parler de la maladie qui le rongeait. Ayant deux filles, dont une déjà mariée, il eut pris soudain fantaisie de marier la cadette avec Pseldonimov. « J'ai connu son père, avait-il dit. C'était un brave homme, et le fils lui ressemble. » Comme il imposait à tous son autorité, tout se fit comme il l'avait désiré. La conduite du vieux Mamifarov était singulière. Il passait tout son temps dans un fauteuil, et bien que privé de l'usage de ses jambes, il ne cessait de boire pendant des journées entières, tout en accablant ses familiers d'insultes et de quolibets. Assez d'être dur et hargneux, il fallait toujours quelqu'un à martyriser. Afin de contenter cette passion, il entretenait auprès de lui plusieurs parentes, une sœur maladive et querelleuse, deux cousines de sa femme méchantes et bavardes, ainsi qu'une vieille tante boiteuse, déhanchée et particulièrement acariâtre. Ce personnel ne lui suffisait cependant pas, et le vieillard hébergeait encore une autre picassiette, une vieille allemande russifiée, pourvue d'un talent très utile et bien remarquable. Elle récitait d'une façon parfaite les contes Mille et une nuits. Et le plus vif plaisir du vieillard était de maltraiter cette bande de malheureuses, les accablant des mots les plus grossiers, sans que celle-ci, même sa femme, qui paraissait être venue au monde avec un mal de dents, lui répondît jamais. Mamifarov inventait des intrigues, répandait des cancans et des racontars, excitant sans cesse ses femmes les unes contre les autres. Sa joie était au comble quand il contemplait les querelles qu'il avait suscitées. Il se réjouit davantage quand sa fille aînée, devenue veuve d'un officier pauvre, dut se réfugier chez son père avec ses trois enfants. À la vérité, le vieillard détestait les mioches, mais la présence de ceux-ci augmentait le nombre des victimes destinées à ces distractions quotidiennes. Toute cette horde de femmes méchantes et d'enfants maladifs s'entassait dans la petite maison en bois. Le vieux bourreau dominait tout ce monde où l'on ne se mangeait jamais à sa faim. Le paralytique était avare et comptait sou par sou, bien qu'il ne se privât pas de boire. On n'y dormait pas non plus, car le vieux était souvent pris d'insomnie, et à tout instant il fallait le distraire et l'aider à tuer le temps. Bref, à part le maître, la maison souffrait et maudissait le sort. C'est alors qu'un hasard malin s'amusa à mettre en présence Pseldonimov et Mamifarov. Le maniaque fut frappé de la longueur du nez et de l'air de chien soumis de son futur gendre. Sa fille cadette, faible et peu avenante, venait justement d'atteindre 17 ans. Bien qu'elle eût fréquenté quelque temps une vague école allemande, elle n'en avait tiré que d'infimes connaissances. À sa sortie de l'école, la jeune fille, scrofuleuse et anémique, avait repris sa vie sous la menace du bâton paternel dans l'enfer des cancans, des espionnages et des médisances. Elle n'avait jamais eu d'amis ni fait montre d'une grande intelligence. Mais depuis longtemps, elle avait grande envie de se marier. Silencieuse et triste devant tout le monde, elle faisait cependant face à sa mère et aux picassiettes, se révélant elle aussi mauvaise et querelleuse, harcelante comme un moustique. Son plaisir, c'était de distribuer des pinsons et des coups aux enfants de sa sœur, de rapporter leurs menus méfaits, larcins de sucre et de pain, ce qui maintenant entre elle et sa sœur un perpétuel état de guerre. Et le père s'était chargé lui-même de la proposer à Pseldoninov. Si pauvre qu'il fût, le jeune homme demanda quelques jours de réflexion, durant lesquels sa mère et lui hésitèrent longtemps. La proposition ne manquait cependant pas de côté séduisant. La jeune fille apportait en dot une maison, vieille il est vrai, mais encore habitable, ainsi qu'une somme de 400 roubles, ce qui pour le jeune homme équivalait à des économies multiples échelonnées sur de nombreuses années. « Pourquoi je prends un homme dans ma maison ? Me demandez-vous » s'exclama le vieillard. « Parce que toutes ces femelles commencent à me dégoûter. Je veux aussi devenir le bienfaiteur de Pseldoninov pour que celui-ci se soumette à ma volonté. Mais je le fais surtout pour ennuyer ces sacrés cotillons qui s'opposent au mariage. Je veux les contrarier, voilà. Quant à toi, Porphyre, promets-moi que ma fille devenue ta femme, tu y taperas dessus avec un bon bâton que je vais te donner. Depuis sa naissance, elle porte 7 diables en elle, 7 diables qu'il faut chasser à tout prix, et pour ce faire, je te préparerai une bonne trique. » Bien qu'ayant pris sa décision, Pseldoninov restait silencieux. 8 jours avant la noce, lui et sa mère furent installés dans la maison, lavé, habillé, chaussé de neuf. Le vieux, qui les protégeait sans doute par esprit de contradiction et parce que le reste de la famille haïssait les intrus, avait donné de l'argent pour célébrer le mariage. La mère de Pseldoninov lui avait même tellement plu qu'il n'osait pas l'insulter. Quant au fiancé, 8 jours avant son mariage, il fut obligé de danser la cosaque devant son beau-père. « Assez !» lui dit celui-ci quand la danse fut terminée. « J'ai voulu simplement me rendre compte que tu ne t'opposerais pas à ma volonté et que tu plierais devant moi. » La somme que Mamie Foloff avait donnée pour l'organisation de la fête était bien minime, mais en revanche, le vieux avait invité tous les parents et connaissances. Pseldoninov, de son côté, n'avait invité que 2 personnes, son ami, le collaborateur du Brandon, et Akim Pietrovitch, son chef de bureau, hôte de marque. Le pauvre fiancé savait bien que les préférences de sa future femme allaient à l'officier et qu'elle détestait sincèrement le mari qui lui était imposé. Mais il supportait tout, car il se sentait tenu par la promesse qu'il avait faite à sa mère. La journée du mariage fut tout entière remplie par les cris et les injures du vieillard, ivre dès le matin. À l'approche du soir, toute la famille s'était réfugiée dans les pièces éloignées, où régnait une odeur pestilentielle, cependant que les pièces situées sur le devant étaient réservées aux repas et aux danses. Enfin, vers les 11 heures, le vieillard s'étant endormi, la mère de la fiancée sentit s'apaiser sa colère, et d'humeur plus supportable, elle sortit de ses appartements et s'en alla rejoindre les soupeurs. L'arrivée d'Ivan Ilitch avait tout bouleversé. La Mamie Feroff, toute confuse, prit ombrage parce qu'on n'avait pas averti de la visite du général. Bien que son gendre lui eût assuré que son excellence était arrivée à l'improviste et sans être invitée, elle n'en voulut rien croire, stupidement entêtée. L'affaire du champagne fut une grande affaire. La mère de Pseldoninov ne possédait qu'un rouble, tandis que le marié n'avait plus un copec. Force fut donc au pauvre garçon d'aller supplier sa belle-mère pour qu'elle payât une bouteille d'abord et une seconde ensuite, faisant miroiter aux yeux de la vieille les avantages à retirer en ce qui concernait sa carrière administrative. Mais avant d'accéder à ses prières, la belle-mère se vengea en faisant voir à Pseldonimov une telle coupe de fiel que le pauvre diable, tremblant de colère rentrée, s'était à plusieurs reprises jeté sur le lit destiné à ses futures joies conjugales tout en s'arrachant des poignées de cheveux. Ah, si Ivan Ilitch avait pu se rendre compte de ce qu'avaient coûté les deux bouteilles de Jackson qu'il avait bues dans la soirée. Mais quelle fut aussi la terreur de Pseldonimov quand il constata que l'affaire se terminait d'une façon aussi imprévue. Il avait devant lui la perspective d'une nuit remplie des cris et des reproches de toute une famille d'imbéciles. Déjà, par avance, la tête lui faisait mal et ses yeux s'emplissaient de ténèbres. Et voilà qu'il lui fallait, à 3 heures du matin, chercher un médecin et un landau pour transporter le dignitaire à son domicile, car un personnage de cette importance ne pouvait, vous le comprenez bien, être promené dans un vulgaire fiacre. Mais où prendre de l'argent pour louer la voiture ? La vieille Mamie Ferov, furieuse de ce que le général ne lui avait pas adressé la parole de toute la soirée, refusa carrément, déclarant qu'elle n'avait pas un copec, et peut-être au surplus, disait-elle vrai. Mais où aller ? Où trouver l'argent ? Oh, n'y avait-il pas de quoi s'arracher les cheveux ? Pendant qu'on desservait les tables et qu'on mangeait un peu à la maison, on transporta Ivan Ilitch sur un petit sofa recouvert de cuir. Le malheureux Pseldonimov courait cependant de pièce en pièce en quête de quelque monnaie. Il avait essayé, mais en vain, d'emprunter aux servantes. Il s'était même risqué à solliciter Akim Pietrovitch demeurer là après les autres invités. Mais le chef de bureau, bien que brave homme et serviable, resta confus, gêné par cette demande inattendue, et se mit à bredouiller d'incompréhensibles excuses. « L'autre jour, je ne dis pas, ce sera avec plaisir, mais maintenant, veuillez m'excuser. » Et saisissant son bonnet de fourrure, il s'enfuit en courant. Le bon jeune homme, qui, dans la soirée, avait parlé de la clé des songes, lui aussi était resté un peu plus longtemps que les autres et prenait une part visible au malheur de Pseldonimov. Tout intimidé, il s'offrit de tout son être dans son grand désir de se rendre utile. Tous les trois, la mère, Pseldonimov et le jeune homme, décidèrent en conseil de ne pas déranger un médecin, sous prétexte qu'il valait mieux transporter le malade très vite chez lui. En attendant, on employa des moyens de fortune. Compresses d'eau froide sur les tempes, glace sur le crâne, etc. Ce fut le rôle de la mère de Pseldonimov, tandis que le jeune homme courait chercher une voiture. Mais les fiacres étaient déjà rentrés aux remises. Il était difficile à pareille heure de trouver quoi que ce fût. Il lui fallut aller dans les faubourgs pour réveiller un cocher. On marchanda. Bon, une course dans ces conditions, ça valait au moins 5 roubles. Bon, on se mit enfin d'accord à 3 roubles. Mais quand, vers les 4 heures du matin, le jeune homme arriva devant le domicile des Pseldonimov, ceux-ci avaient depuis longtemps changé d'avis. De toute évidence, Ivan Ilitch n'était pas transportable. Il geignait et se débattait sur sa couche. Oh, qu'allons-nous devenir ? Se demandait Pseldonimov, qui définitivement perdait courage. Et que faire ? Une nouvelle question surgissait. Si le malade devait demeurer là, où le placer ? La maison entière ne possédait que 2 lits. L'un où couchait le Mamirov avec son épouse, le second, nouvellement acquis, en beau noyer ciré, destiné aux jeunes époux. Les autres habitants de la maison couchaient par terre, sur des édredons vieux et malodorants, en nombre limité. Le cas échéant, on pouvait encore arriver et en trouver un, mais où le mettre? On ne pouvait installer le lit du général qu'au salon, pièce la plus éloignée de l'antre familial, et qui possédait une entrée particulière. Mais sur quoi placer l'édredon? Sur des chaises? C'était impossible. C'est une couchette bonne tout au plus pour des lycéens venant passer le samedi et le dimanche dans leur famille. Un personnage tel qu'Ivan Ilitch ne pouvait s'en contenter, et Pseldonimov se refusait même à envisager cette idée. Il ne restait qu'une solution, transporter le dignitaire sur le lit nuptial, dressé dans une petite chambre près de la salle à manger. Ce lit, nouvellement acheté comme nous l'avons dit, supportait un matelas neuf, quatre oreillers dans des terres roses ornées de ruches. Il était surmonté d'un dais fixé sur des tringles dorées. Bref, un meuble impeccable. Et les individus, qui avaient auparavant tous défilé par là, ne tarissaient pas de compliments sur l'arrangement de la couche. La nouvelle mariée, bien que détestant Pseldonimov, n'avait pas manqué de faire des incursions furtives dans cette pièce. Quelle fut donc sa fureur quand elle apprit que sa couche nuptiale allait être souillée par un malade atteint d'une sorte de cholérine. Sa chère maman a pris aussitôt sa défense, se répandant en injures et menaçant de tout dire à son digne époux. Mais Pseldonimov resta inflexible et Ivan Ilitch fut installé dans la petite chambre, cependant que les jeunes mariés devaient se contenter d'un lit qu'on improvisa dans la salle à manger au moyen de chaises à côté. La petite épouse éclata en sanglots, mais n'osa point rentrer en révolte ouverte. Elle connaissait bien l'existence du bâton paternel et savait que le lendemain, papa ne manquerait point de demander un compte rendu détaillé de la soirée. Sa consolation fut qu'on agrémenta le lit de fortune d'une belle couverture rose et d'oreillers surornés de ruches. À ce moment, le jeune homme arrivait enfin avec sa voiture. Apprenant qu'on n'en avait plus besoin, il en était devenu tout blême. Tout retombait donc sur sa tête, à lui qui, de sa vie, n'avait possédé 20 kopecks, car Pseldonimov venait d'avouer son manque d'argent. Les discussions avec le cocher ne servirent à rien. Il voulait être payé, cet homme, et déjà commençait à taper dans les volets. Je ne sais trop comment cela se termina. J'ai entendu dire que le jeune homme, resté prisonnier dans la voiture, s'enfuit vers le faubourg de Pieski, où il espérait trouver un étudiant de ses amis qui, peut-être, pourrait lui prêter quelques petites sommes. Il était 5 heures quand les deux mariés restèrent enfin seuls. La pauvre vieille, Madame Pseldonimov, s'étant offerte à veiller le malade, s'allongea donc sur un tapis défraîchi et se recouvrit de sa maigre fourrure. Elle ne put cependant s'endormir, car elle était obligée de se lever à chaque instant à cause de la terrible diarrhée qui s'était déclarée chez Ivan Ilitch. Femme généreuse et forte, elle déshabilla le dignitaire, le coucha, le traitant comme son propre fils, et de la nuit ne cessa de courir de la chambre au corridor et du corridor à la chambre. Cependant, les malheurs de cette nuit ne devaient point rester là. Il ne s'était point encore passé 10 minutes depuis qu'on avait enfermé les jeunes gens hariés dans leur chambre qu'un cri perçant se fit entendre, non pas joyeux, mais plutôt angoissé. Aussitôt, un bruit terrible, un craquement, un vacarme de chaises renversées, et en un instant, la chambre nuptiale fut envahie par une foule de femmes hurlantes, vêtues de déshabillés les plus divers. C'était la mère de la jeune mariée, sa sœur aînée, qui avait à cette occasion abandonné ses enfants malades, ses 3 tantes et même celle qui avait une côte cassée.
La cuisinière arrivait aussi, suivie de près par la vieille Allemande, dont le métier consistait à raconter les histoires de mille et une nuits. Bien qu'on lui eût retiré son édredon, le meilleur de la maison, et qui constituait tout son avoir, elle s'amenait sans rancune. Toutes ces estimables commères, qui depuis un quart d'heure guettaient à la serrure, étaient dévorées d'une curiosité malsaine. Soudain, quelqu'un ayant fait la lumière, un spectacle inattendu s'offrit aux yeux. Les chaises à côté, ne pouvant supporter le double poids, venaient de céder, et l'édredon reposait par terre. La jeune mariée pleurnichait et bouillait de colère, se sentant vraiment offensée. Celle de Nimov, absolument anéantie, se tenait dans la pose d'un criminel pris sur le fait. Il n'essayait même point de réagir, insensible, aurait-on dit, aux cris et hurlements qui venaient l'accabler. Ce vacarme attira enfin la mère de Pseldominov, mais cette fois, ce fut la belle-mère qui eut le dessus. Elle commença par accabler Pseldominov, hébété de reproches aussi étranges qu'injustes. « Mais quel époux faites-vous ? À quoi êtes-vous bon pour après cela ? Etc., etc. » Et saisissant la main de sa fille, elle l'entraîna dans sa chambre, tout promettant de conter au père, qui ne manquerait pas d'en être courroucé, les raisons qu'il avait fait agir de la sorte. Le reste de la société les suivit en branlant la tête et poussant des ah de découragement. Pseldonimov resta donc seul avec sa mère, qui cherchait à le consoler, mais il la renvoya bientôt. D'ailleurs, vous auriez pu essayer en vain toutes les consolations. Il gagna le canapé et, plongé dans de mornes réflexions, resta longtemps ainsi, vêtu seulement de l'indispensable linge et pieds nus. Les pensées s'entrechoquaient dans sa malheureuse tête. Par moments, il laissait tomber un regard machinal sur la pièce où, peu d'heures avant, se démenait la foule enragée des danseurs et qui restait encore tout imprégné de l'odeur du tabac. Les mégots et les enveloppes de bonbons couvraient toujours le sol humide et sale. La ruine de la couche nuptiale et les chaises renversées représentaient pour le pauvre garçon la vanité des espoirs et des rêves d'ici-bas. Il resta ainsi plus d'une heure. Des rêveries lourdes hantaient son cerveau. Par exemple, qu'est-ce qu'il attendait à son bureau ? Il comprenait parfaitement qu'il lui faudrait changer de service, car après ce qui venait de se passer, il ne pouvait rester dans le bureau du général. Le souvenir de Mamiferov vint aussi l'importuner. Le beau-père ne lui ferait-il pas danser la casoque à seule fin de le convaincre ? Puis ce fut la pensée terrifiante que ce dernier n'avait jusqu'ici donné que 50 roubles, qui maintenant étaient dépensés. Il n'avait plus reparlé des 400 autres roubles de la dot. Pseldonimov ne possédait non plus aucun droit de propriété sur la maison. Puis, songeant aussi à sa femme qui venait de l'abandonner dans le moment le plus critique de son existence, le malheureux revoyait l'officier qui se mettait à genoux devant son épouse. Bon, il s'en était aperçu, non sans un sentiment de colère rentré. Enfin, il pensa aux sept diables qui, selon les affirmations paternelles, résidaient dans sa jeune épouse et qu'il lui faudrait chasser avec le bâton préparé à cette fin par le vieux Mamiferov. Naturellement, il se croyait de taille à supporter bien des avanies, mais réellement, le sort n'était-il point trop féroce pour lui, l'accablant ainsi par surprise, comme pour mieux anéantir ses dernières forces. Et Pseldonimov se désolait,
remâchant ses malheurs, cependant que le bout de bougie agonisait sur la table. La vague lumière, découpant le profil du triste abandonné, projetait son ombre sur le mur où se dessinait un être immense, au nez recourbé, au long cou, aux deux mèches fortement formant des cornes. La fraîcheur du matin le fit trembler. Morne et las, il se leva, regagna l'édredon tassé entre les chaises renversées, et sans rien réparer du désordre, il s'allongea dessus, sans mettre même un oreiller sous la tête. Un sommeil de plomb l'envahit, et il sombra dans l'inconscience avec le fatalisme d'un condamné à mort. D'un autre côté, à quoi pourrons-nous comparer la nuit qu'Ivan Ilitch venait de passer sur la couche nuptiale ? Les maux de tête, les vomissements et d'autres accès plus désagréables encore n'avaient cessé de le torturer. Il endurait le martyre de l'enfer. Les éclairs qui de temps en temps traversaient son cerveau lui montraient de tels abîmes de terreur, des tableaux si abjects et si ténébreux qu'il eût mieux valu pour lui ne plus jamais se réveiller. Du reste, tout cela s'entremêlait dans sa tête. Il reconnaissait pourtant la mère de Pseudonimov. Il entendait ses encouragements. « Souffrez un peu, mon petit pigeonneau, souffrez, petit frère, cela va se passer. » Il la reconnaissait, sans comprendre cependant pourquoi cette femme se trouvait à son chevet. Des fantômes étranges surgissaient sans cesse. Le plus souvent, c'était Semen Ivanovitch. Puis aussitôt, en regardant plus attentivement, le général reconnaissait le nez de Pseudonimov. L'artiste, l'officier, la femme à la joue bandée dansaient une saravande échevelée devant ses yeux. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était l'anneau doré du ciel de lit au-dessus de sa tête. Tout en le voyant distinctement briller dans la lueur tremblante du bout de bougie, le malade ne pouvait se rendre compte de ce que c'était ni de ce que cette chose étrange faisait là-haut. Il questionna plusieurs fois la vieille, mais sans doute ne s'exprimait-elle pas de façon suffisamment claire, car elle ne put jamais arriver à le comprendre. À l'approche du matin, les accès s'arrêtèrent et il s'endormit sans rêve une heure durant. Quand il s'éveilla en pleine conscience, il sentit une douleur vrillante dans la tête ainsi qu'un goût nauséeux dans la bouche. Sa langue lui semblait être un bout de chiffon. Dressé sur le lit, il jetait autour de lui des regards étonnés. La pâle lumière du jour naissant, en traversant les fentes des volets, tremblait sur le mur. Il ne devait pas être loin de 7 heures. Quand il eut enfin la notion exacte de ce qui s'était passé, quand il se rappela toutes les aventures qui avaient agrémenté le souper, son action héroïque manquée et son discours à table, quand, avec toute la netteté possible, il envisagea les conséquences de son équipée, quand enfin il vit l'état dans lequel il avait mis la couche nuptiale de son malheureux subordonné, c'est alors seulement que la honte et la terreur le saisirent. Il poussa un cri et, se voilant la face, tomba dans les oreillers. Tout près de lui, sur la chaise, reposait sa fourrure, son bonnet et ses gants jaunes. L'idée de disparaître lui vint aussitôt, mais la porte déjà s'ouvrait, et la vieille Pseudonimov entra, portant une cuvette de terre entre ses bras et une serviette sur l'épaule. Elle posa le récipient sur la table de toilette et sans autre discours enjoignit au malade de se débarbouiller. « Allons, petit père, tu ne peux pas sortir d'ici sans te laver. » Ivan Ilitch comprit que s'il y avait un être devant lequel il n'eût pas à rougir, c'était bien cette bonne vieille.
Il se rafraîchit donc la figure. Longtemps après, dans ces heures difficiles de l'existence où remontent les reproches de la conscience, le général se rappelait cette ambiance de son réveil. Le pot de faïence, la cuvette en terre remplie d'eau froide dans laquelle nageaient quelques glaçons, la savonnette ovale et entourée de papier rose, valaient bien 15 copecks environ, sans doute achetés pour les jeunes mariés, et qu'il avait été obligé d'entamer. L'eau froide lui ayant rafraîchi les idées, il s'essuya, puis, sans même remercier son infirmière, il prit son bonnet, jeta sa fourrure sur ses épaules et s'enfonça dans le corridor. Il traversa une pièce inconnue, dans laquelle la cuisinière, encore enfouie dans sa couche, se dressait pour lui jeter un regard curieux. Il arriva enfin dans la rue, et appelant un fiacre qui passait, sauta vivement dans la voiture. La matinée était froide, un brouillard jaunâtre voilait les maisons. Ivan Ilitch releva son col. Il pensait que tout le monde le reconnaissait et lui reprochait sa conduite. Pendant 8 jours, il ne sortit pas de chez lui, n'allant pas même à son bureau. Malade, plus moralement que physiquement, cette semaine lui avait donné un avant-goût de l'enfer. Nul doute que ses souffrances lui fussent comptées dans l'autre monde. À certains moments, il songeait délibérément à entrer au couvent, et son imagination vagabondant, il entendait des chants étouffés comme souterrains. Il voyait une tombe ouverte, la vie dans une cellule isolée des ermitages, au fond des forêts. Mais, secouant la hantise, il s'avouait que toutes ses rêveries n'étaient que des exagérations morbides, dont aussitôt il avait honte. D'autres fois, c'étaient des accès de regret. Il croyait son existence manquée. Après, l'âme un peu plus lucide, il luttait contre cette emprise et essayait de chasser ses répugnants souvenirs. Puis à nouveau, d'autres images venaient défiler dans son cerveau. Que dira-t-on quand il entrera dans le bureau? Des murmures ironiques ne le persécuteront-ils pas pendant l'année entière, pendant 10 ans, même pendant toute son existence? Cette idée le rendait pusillanime. Il était prêt à courir chez Semen Ivanovitch et, après lui avoir demandé pardon, à le supplier de lui rendre son amitié. Quant à lui, il ne cherchait plus à se disculper. Il s'accusait et ne se trouvant aucune excuse, et simplement s'abîmait dans la honte de lui-même. Il pensait parfois à donner sa démission pour finir sa vie dans l'éloignement du monde, au service duquel il avait voulu se consacrer. En tout cas, il était décidé à renouveler son cercle d'amis et connaissances pour effacer chez les anciens jusqu'à son souvenir même. Mais aussitôt, il trouvait stupide cette dernière solution et se disait qu'une grande sévérité à l'égard de ses subordonnés finirait bien par éteindre toute mémoire de cette affaire. Et cette pensée lui donnait de l'espoir et des forces. Enfin, après 8 jours de souffrance et de doute, ne pouvant plus supporter cette angoisse de l'inconnu, il se rendit un beau matin à son bureau. Naguère restant à la maison, il avait cherché 1000 fois à se représenter cette rentrée. La terreur le reprenait des murmures suspects, des figures allongées et faussement indifférentes, des sourires douteux qui allaient le saluer. Quel fut donc son étonnement de ne rien voir de tout cela? L'accueil fut très respectueux, on le salua très bas, tout le monde était sérieux et très occupé, et le cœur plein de joie, le général gagna son cabinet particulier.
Il se remit tout de suite aux affaires avec tout le sérieux que comportait son grade. Il écouta des rapports, des explications, dicta des résolutions. Il sentait que jamais jusqu'ici, il n'avait pris de décision aussi intelligente que ce matin-là. Il voyait qu'on était content de son retour, qu'on le respectait, qu'on s'adressait à lui avec une grande déférence. En vérité, la susceptibilité la plus chatouilleuse n'aurait rien pu découvrir. Tout marchait admirablement. Le général reçut enfin Akim Pietrovitch, qui s'amena avec un gros tas de papiers. Son apparition piqua Ivan Ilitch au cœur, mais cela ne dura qu'un instant. Il travailla avec son chef de bureau, parla sérieusement, lui indiqua diverses façons de procéder. La seule remarque qu'il fit, c'est que, s'il sentait le désir d'éviter le regard de son subordonné, celui-ci lui-même semblait chercher sans cesse à esquiver le sien. Ayant terminé son rapport, le vieux fonctionnaire assembla ses papiers. « J'ai encore une demande, » débita-t-il d'un ton plus sec. « Le fonctionnaire Pseldonimov sollicite son transfert dans un autre bureau. Son Excellence Semen Ivanovitch a bien voulu lui promettre une place. Aussi désire-t-il l'aimable approbation de votre Excellence. »« Ah, oh, il demande à permuter, » dit Ivan Ilitch. Le général sentit que son cœur était soulagé d'un poids énorme. Il leva les yeux sur Akim Pietrovitch et pour la première fois leurs regards se rencontrèrent. « Bon, de mon côté, je m'emploierai, oui, je suis prêt à lui accorder son autorisation. » Il était visible qu'Akim Pietrovitch ne cherchait plus qu'une chose, fuir au plus vite. Mais déjà, Ivan Ilitch voulait montrer la noblesse de son caractère et surtout, sans doute, éclaircir définitivement la situation. Il lança au vieux fonctionnaire un regard plein d'une signification profonde. Mais transmettez-lui, enfin transmettez à Pseldonimov, l'assurance que je ne lui ai pas de mal, que je ne lui en veux nullement, bien au contraire. Que je suis prêt à oublier le passé, oublier tout. Mais l'effet de cette harangue fut tout autre que ne l'avait supposé Ivan Ilitch. Akim Pietrovitch, qui jusqu'ici avait paru être un homme raisonnable, semblait changer maintenant en un parfait imbécile. Au lieu d'écouter, il rougit jusqu'à l'invraisemblance, et faisant fort ce petit salut, autant dire inconvenant, il cherchait en marchant à reculons à gagner la sortie. Tout son aspect exprimait le désir de se cacher sous terre, ou plutôt de se réfugier dans son bureau. Resté seul, Ivan Ilitch se leva, pris d'un trouble indicible. Il se regarda dans la glace et ne se reconnut point. Non, il n'y a que la sévérité, disait-il dans un murmure presque inconscient. Une rougeur subite envahit son visage. Une honte, une gêne lourde le crispait tout entier. Une gêne plus forte que celle dont il avait senti l'emprise durant ses 8 jours de maladie. Oh. « Je n'ai donc pas encore assez souffert !» se dit-il en tombant dans son fauteuil.